Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Quelques nouvelles du cinéma en salle, c'était assez épatant. Un petit truc en plus, imaginez-vous qu'à la sixième semaine, ils arrivent à 7 millions. 7 millions au bout de la sixième semaine. Et ça me rappelle que Intouchable, vous vous souvenez, Intouchable, avait fait 13 millions à la sixième semaine. Et là, un petit truc en plus, c'est 7 millions, il y a une sorte de raz-de-marée extraordinaire. Ouais. Donc c'est vraiment film...
Et réjouissant,
c'est vraiment le film de ce printemps. Alors, les trois chroniqueurs, trois films et chroniqueurs, tout le monde les connaît bien, Marie-Noëlle de Tranchant, Dominique Borde et Bernard Midioni. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et alors, les films, vous m'avez parlé de lumineux, on va terminer par la lumière, on va commencer par le trash, si vous voulez bien. On va commencer par En attendant la nuit. En attendant la nuit, c'est une histoire de vampire. Alors, vous savez que le vampire, ça existait déjà à l'époque pré-chrétienne, ça vient du mot vampire, qui signifie cadavre qui se nourrit. C'est un mot serbe. Voilà. Et puis alors, les vampires, on connaît Dracula depuis 1897. Et là, c'est un adolescent, imaginez-vous. Les vampires n'ont pas d'âge. C'est Philémon qui est un adolescent, et au sens où le sang qu'il boit lui permet de vivre. Et puis, il tombe amoureux de sa voisine Camilla. Alors, lisez le vampirisme à l'adolescence, moi, me semble particulièrement violent. Mais ça sera à vous de parler tout de suite après la bande-annonce.
Absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible.
Et les voisins?
Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille.
Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain.
Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche.
C'est ça.
Ok.
Plus dur que ce que j'imaginais.
T'es un peu bizarre, toi.
Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un, un mouchoir !
Christophe, non, va. Laisse pas faire ! Calme, bouge !
Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman ?
Je sais pas ce qui m'arrive.
T'es chez moi, ici.
Vous m'avez laissé vivre ça.
Pourquoi? Où est-ce qu'on s'enfuit?
Lâche-la, je te dis!
Arrête! Il est mort!
Hors-moi.
Il y a des hémoglobines plein la voiture. Alors, Dominique?
Oui. Eh bien, voilà, c'est une famille presque ordinaire, à peu de choses près, qui vient s'installer à la campagne. Mais le fils a besoin de sang. Il a besoin du sang des autres. C'est un vampire, mais c'est un vampire très ordinaire. Hein. C'est un vampire presque quotidien. On pourrait presque le croiser dans la rue. On le croise d'ailleurs dans la rue, on le croise sur l'écran en tout cas. Voilà, le charme du film, c'est simplement de cerner une vie ordinaire en y mettant un zeste de fantastique et d'hémoglobine. Bien qu'on ne voit pas beaucoup d'hémoglobine finalement, sinon au début. Hein. Au début, quand il tète sa mère, il commence déjà à prendre le sang de l'autre. C'est assez curieux parce que On est dans l'horreur en temps calme, quoi. C'est quelque chose de... Il se passe peu de choses. Hein. Si on a quelques accidents, comme ça, le drame couve, il va arriver, il arrive.
Elodie Bouchet est très bonne.
Hmm?
Elodie Bouchet est très bonne.
Oui, oui. Oui. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu.
Il faut rappeler que c'est un film de Céline Rouzet. Hein.
Oui. Et puis, voilà. Mais comment avoir une relation normale quand on est soi-même anormal? C'est une belle parabole.
C'est une vraie question.
On pourrait la généraliser à d'autres choses, voilà. Maintenant, c'est un petit peu lassant parce que le film est assez atone. Autrement, c'est pas... on attend le drame arrive, on s'y attend un petit peu. Puis ça finit un peu en queue de poisson, c'est pas remarquable.
Mmh. Marie-Noëlle ?
Oui, je suis d'accord, il y a... Après, alors, avec l'exception du pré-générique et de la toute première séquence, qui est assez forte, parce que y a des hurlements, et puis un noir, et puis... Donc on serait plutôt du côté de la terreur, et des cris de bébé, et quand l'image arrive, c'est l'image d'une naissance. Voilà, là, il y a la naissance... Il y a le sang, le lait, le sang qui se mêle, le sein maternel. Etc. Ça, c'est assez étrange. Et puis, après, comme le dit Dominique, on essaie d'étouffer ou de mêler ou de l'étrange, le fantastique des histoires de vampires à la vie la plus ordinaire d'une petite la vie quotidienne d'une petite société de province.
C'est un film sur le handicap, à votre avis?
C'est ce qu'elle dit, la réalisatrice. Oui. Moi, j'ai pas vu ça, parce que j'ai pas vu ça du tout. J'ai vu ça qu'elle essayait de mélanger, et c'est un problème de le fantastique et la vie quotidienne. Et le dosage est assez mal effectué, malheureusement. Il y a une bizarrerie qui reste superficielle, qui n'est pas du tout travaillée. Il n'y a aucun crescendo dramatique, comme le disait Dominique, aucune montée alors qu'on attendrait quelque chose. Il y a une idylle qui se greffe là-dessus, qui est très... Les dialogues sont très très pauvres, et donc finalement c'est un drame lymphatique sur les liens du sang.
Bon. Ah, on aurait dû mettre les applaudissements là, parce que c'était Marie-Noëlle qui l'emporte. Mais nous vous écoutons, Bernard Benioni.
Oui, malheureusement, je suis assez d'accord avec mes camarades. Vous avez quand même un acteur qui s'appelle Mathias Le Gouhamon, qui possède une présence authentique, qui sera peut-être un futur espoir du cinéma français, parce qu'il a ici une sensibilité prolifique et une conviction sympathique. Il y a une bonne idée qui est ce défi quotidien lancé au soleil, parce que c'est une réappropriation du mythe du vampire. D'habitude, le soleil brûle le vampire, littéralement. Il suffit de voir Le Cauchemar de Dracula avec Christopher Lee pour se rendre compte. Ici, c'est plus sous la forme d'une gageure, d'un défi lancé tous les jours au soleil. Ça, c'est plutôt sympathique. Il y a un très joli plan de pont baignant dans la lumière du jour déclinant. Et ça, c'est vrai que cette image retient l'attention. Et puis la musique que l'on a aperçue dans la bande-annonce entre singularité et expressivité qui alimentait une certaine étrangeté. Maintenant, les tentatives de mettre le vampirisme dans la vie quotidienne et que l'on connaît, il y a eu des choses bien meilleures il y a quelques années, qu'on pense au Prédateur avec Catherine Deneuve et David Bowie, qu'on pense à Vampire, vous avez dit Vampire, ou à Génération Perdue qui avait lancé la carrière de Kiefer Sutherland. Là, c'était plus les vampires du 19e siècle, c'était les vampires des années 80, mais avec quelque chose qui était beaucoup plus abouti. Le film n'est pas assez écrit, ça met un temps fou à commencer. La séquence pré-générique dont parlait Marie-Noëlle retient l'attention. Ça avait pensé d'ailleurs à un film français qui s'appelait Baby Blood, qui était sorti il y a quelque temps. Mais ici, ça s'évertue, je suis d'accord avec Dominique, à bâtir une tension, mais il n'y arrive pas. Parce que cette apathie et cette indétermination en compromettent l'éclosion de cette tension. Moi, j'ai perçu une finalité symbolique et satirique. On a l'impression qu'elle veut critiquer le conformisme dans cette vie très tranquille de ces gens qui se connaissent tous, dans cette nature assez idyllique. Et en même temps, peut-être une critique de la... Enfin, une perception d'une représentation de la toxicomanie. Mais je n'en suis pas totalement persuadé. La dernière, il y a une scène de confrontation violente à la fin qui est totalement brouillonne. On sent que la mise en scène est tâtonnante. Et puis, à force d'accorder la primauté à la réalité, le film amoindrit l'étrangeté. Et ça, c'est très ennuyeux. Et puis, on aimerait avoir peur. On n'a jamais peur tout au long de ce film. Je dirais pour conclure qu'ici, on a des canines goulues, mais pas de violence. La règle, c'est peut-être d'entier sans frapper.
Nous passons au rendez-vous avec Paul Pot de Ritipan, avec Irène Jacob, Grégoire Collin et Cyril Gueye. Alors, le régime des Khmers Rouges au Cambodge, dirigé par Paul Pot, ça a été quand même 2 millions de personnes qui ont été supprimées, un quart de la population cambodgienne. Ici, nous sommes en 1978. Trois journalistes sont invités à effectuer un reportage sur le régime, alors qu'ils voudraient interviewer Pol Pot. Donc, ça sera un scoop, mais la déconvenue va être sévère.
Je suis Issou, du ministère des Affaires étrangères.
Tu m'as pas reconnu. J'ai été à la Sorbonne avec lui.
Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale.
Pour en faire des instruments agricoles.
On est journaliste.
Ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative.
La révolution doit faire table rase du passé.
Absolument.
Attendez, on ne va pas se laisser balader comme les touristes. Je ne suis pas un ami du parti.
La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire.
Paul ?
Paul !
C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encadre.
Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués.
Pourquoi vous mentez ? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul ?
Vous n'avez rien compris à notre révolution.
Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'Encadre va créer des hommes nouveaux à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront. Les autres seront éliminés.
Vous rendez-vous compte que le procès de ce régime va durer 13 ans, va coûter 300 millions de dollars pour seulement 3 condamnations.
Et Pol Pot est mort en 98.
Oui, parce que la plupart des responsables sont morts pendant le procès. Et donc, il n'y a eu que 3 condamnations, 13 ans de procès, 300 millions de dollars de coûts. Et pour 2 millions de morts, et une société qui a été complètement explosée. Ouais. Comment avez-vous senti ce film, Dominique Borg ?
Bah, écoutez, c'est assez efficace sans être démonstratif. C'est ce qui est assez fort dans le film, finalement. Parce que y a 3 journalistes donc, qui veulent faire un scoop, ils veulent voir Pol Pot qui se montre très peu, il faut le dire. Mmh. Et qu'on ne verra pas, d'ailleurs.
Non. Hein.
Pol Pot, c'est le résultat de Pol Pot qu'on voit, en fait, c'est ça. Et il y a une phrase à la fin qui résume un petit peu le... La morale, si on peut dire, la morale immorale, c'est mieux vaut une société sans hommes que des hommes imparfaits. Ça résume l'histoire, donc les hommes imparfaits, ben, on les supprime.
On les supprime.
Voilà, tout simplement. C'est la doctrine communiste énoncée simplement avec un cynisme parfaitement idéologique. Ici, l'individualisme est annihilé par le collectivisme et surtout encadré par les gardes rouges. Voilà, c'est ce qu'on nous montre, mais... Les images fortes, l'horreur est ailleurs, c'est intéressant. Il y a le rôle du journaliste aussi, parce qu'il y a 3 journalistes qui croient en leur métier et qui sont là pour
une
regarder, pour
hommes.
Montrer, pour témoigner, mais dont la conscience va reprendre le dessus tout de même. Il faut dire qu'il y en a un qui va disparaître, il y en a un autre aussi, il y en a une qui survivra finalement. Ils sont là aussi pour dénoncer. C'est un film qui est une sorte d'antidote au totalitarisme. Voilà. Faute de remplir les têtes, pardon, on les coupe. Mais le film reste un film d'auteur sans effet spectaculaire. L'horreur du totalitarisme repose sur une ambiance, une atmosphère lourde, où on accompagne ces 3 journalistes, dont l'un est photographe. On est dans l'ambiance post-révolutionnaire, une horreur calme, résignée, encadrée par des gardes rouges aux ordres. C'est encore plus terrifiant que si on avait des scènes d'horreur, finalement, parce que tout ça est très lourd. Et le film est efficace en ce sens-là. C'est le regard aussi d'essayer des journalistes qui témoignent participants d'une horreur, finalement. Voilà, l'horreur ici est muette, discrète, lourde. C'est une emprise, une prison à ciel ouvert. Et on est dans une prison à ciel ouvert. Voilà le film.
Et on est en 78.
Et on est en 78,
donc
3 ans après.
On a vraiment connu ça.
3 ans après la prise de pouvoir de Pol Pot, oui.
C'est fou, Marie-Noël.
Oui, c'est aussi... Une réflexion par l'image, par la mise en scène, sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de la réalité selon ses préjugés idéologiques. Parce que ce voyage de presse, entre guillemets, est un voyage de propagande, comme il y en a eu sous tous les totalitarismes. Qu'on se rappelle les voyages d'intellectuels à Moscou.
Et l'un des 3 y croit. Hein.
Celui qui n'est pas journaliste.
Absolument. Il est intellectuel.
C'est un intellectuel idéologue complètement aveuglé. Et là, il faut dire que. Alors, Grégoire Collin est particulièrement caricatural dans le rôle, parce qu'il c'est vraiment un benêt absolu. Il ne voit rien. Parce qu'il n'y a rien à voir, donc il croit que le fait qu'il n'y ait rien à voir, c'est que tout est tranquille. c'est l'aveuglement, c'est un film sur le dévoilement et la révélation de l'aveuglement, et c'est le travail des journalistes aussi, comme il a été, de déceler la réalité à travers des villages Potemkin, des présentations souriantes, magnifiques.
Et c'est le personnage que joue Irène Jacob qui est le plus pugnace, finalement.
Oui, oui. Ouais, qui est un vrai personnage de journaliste. Mmh. Et puis le photo-reporter, quand même, qui s'aventure délibérément et dangereusement hors des zones permises. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a hors des zones permises ? Rien. L'absence totale d'un peuple qui a disparu. L'absence et le silence. Et c'est ça que montre le film. Il y a des scènes, en effet, très impressionnantes. Alors, le problème, c'est que, dramatiquement, toute cette réflexion qui est très forte et remarquablement induite par la mise en scène, il y a des régimes d'images différents, des images d'archives, des images de décors, des images des figurines, toutes sortes de manières d'appréhender la réalité. Et cette réflexion par la mise en scène nuit un peu à la progression dramatique. C'est parfois un peu confus.
D'accord.
Mais c'est très très intéressant. Il faut rappeler que Riti Pan est un admirable documentariste qui a réalisé des grands documentaires sur le génocide Khmer, notamment S21, la machine de mort Khmer Rouge, et puis Douche, le maître des forges de l'enfer.
Oui.
Des deux grands documentaires.
Bernard Médioni, vous voulez nous parler de L'Armée des Ombres ?
Oui, L'Armée des Ombres vient de ressortir. C'est peut-être le plus grand film de Jean-Pierre Melville, avec Le Cercle Rouge. Je serais que mon voisin ne sera pas d'accord avec moi.
Avec Le Samouraï,
surtout. Non, je trouve que c'est bien supérieur au Samouraï.
On n'est pas du même avis. Tu me permettras d'avoir une vision sur Melville.
Je savais que tu ne serais pas d'accord, bon, que vous ne seriez pas d'accord.
Allez,
ça m'étonne guère.
Parce qu'après, nous partons sur la petite vadrouille.
C'est un film absolument remarquable sur la résistance adaptée du roman de Joseph Kessel.
Oui.
Une progression dramatique des scènes très 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 poignante, notamment le traître puni par ses anciens amis, une distribution remarquable, Ino Ventura, Simon Signoret, Paul Crochet, Serge Reggiani, et une musique d'Éric de Marsan, Paul Meurice, Jean-Pierre Casset, et une musique d'Éric de Marsan qui sonne vraiment comme un hymne à l'héroïsme dans le générique de fin. C'est un film absolument poignant, remarquable, et on peut aussi saisir un message en quatre mots: je ne courrai plus.
Voilà.
Et savoir ce que ça signifie.
Alors, je vais ajouter quelque chose, parce que j'ai interviewé Jonathan Demme, et il venait de découvrir L'Armée des Ombres, et il était admiratif devant Jonathan Demme, c'est Silence des Agneaux, hein. Et il était admiratif devant un film qu'il avait découvert la veille du moment où je l'ai rencontré. Alors moi, c'est pas mon préféré de Melville, mais certain que c'est un film sur la résistance. Melville, apparaît-il, parce qu'on ne sait jamais la vérité avec Melville, participait à la résistance, dit-il, on n'en sait rien, il y a une grande admiration pour De Gaulle aussi, qu'on sent. Alors, il y a beaucoup de choses politiques, finalement, dans le film, pour une fois, parce que chez Melville, il n'y a pas beaucoup de politique.
Donc ça ressort en salle.
Et ça ressort en salle.
Notamment au Quartier Latin.
Allez, on se quitte sur la lumière, la comédie, la poésie des frères Podalydès, le charme de Sandrine Kiberlain, l'élégance de Daniel Auteuil. Vous avez compris que nous parlons de La Petite Vadrouille. La Petite Vadrouille, ben c'est une péniche fluviale. Et pour ceux qui ont fait passer des vacances sur une péniche fluviale, ce qui est mon cas, je peux vous dire que j'ai beaucoup rigolé, parce qu'il y a plein de scènes qui sont vraies, le bateau qui se met en travers, l'écluse qu'on passe mal, enfin tout ça est très très drôle. On écoute la bande-annonce.
Justine ?
Oui, monsieur Poyac.
Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça.
D'accord.
Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié.
Il faut que j'organise un week-end de rêve.
On va tous se refaire.
Jocelyn, capitaine. Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up.
Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça.
Bonjour, Franck.
Je suis votre capitaine. Et vous dites mon capitaine.
Voilà. Voilà, c'est bien. Très bien.
Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très, très grande qualité.
Oh, les croûtes.
La petite vache, je l'adore. 3000.
Ah, elle a raison, faut le faire cracher. À chaque écluse, il faut payer 50 euros. Il la frappe ? Mais c'est qui, ce type ?
Quoi ? Non, mais ça va. Hein. Mais tu commences à m'emmerder, là, avec ta jalousie à la con. Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe.
Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein.
Je me demande comment ils peuvent croire encore à cette histoire. Avec ce vin midi qui était de la super piquette.
je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même.
Bah, tu te déguiseras.
Chacun respecte son engagement.
C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire.
Mais c'est derrière tout.
Mais pourquoi vous gueulez ça, puisque c'est vous qui manœuvrez le moteur?
Voilà, on a 4 minutes, on vous
écoute. Oui, alors, contrairement au précédent qui n'était pas très accompli, c'était waouh sur l'immobilier, là il y a un scénario, un peu plus construit, un patron qu'on veut exploiter, un compagnon jaloux, une femme un peu coquette qui est piégée par un homme amoureux, et c'est naïf, mais le scénario fonctionne. On y ajoute une péniche de fortune et un capitaine d'infortune, évoque la petite galère, ça aurait pu s'appeler d'ailleurs évoque la galère, ça aurait peut-être été mieux que la petite vadrouille. Mais comme toujours avec les Podalides, bon, on a l'impression de... Moi j'ai toujours cette impression qui est très réjouissante et très, très rafraîchissante de deux ados prolongés qui s'amusent dans un jardin réservé aux adultes. Ça finit par créer un style... on l'avait vu ça avec leurs relations de Gaston Leroux ou de Bécassine d'ailleurs. C'est toujours sympathique, parfois drôle, c'est frais, un peu poétique. Et ça a fini par créer un style. C'est le style Podalides. Il y a quelque chose de poétique et d'enfantin qui est prenant.
De la ciboulette sur les images.
Oui, il y a toujours ça. C'est artisanal, mais en même temps, ça peut plaire ou agacer. C'est imparfait, mais c'est sympathique. Donc on peut marcher, c'est agréable à regarder. Et puis le bateau a beaucoup d'importance dans leur cinéma. On l'a déjà vu dans plusieurs films.
Mène au Léron.
Voilà.
Non.
Voilà. Mais il y a une fraîcheur, une candeur enthousiasmante qui est assez rare dans le cinéma français.
Et puis une lenteur absolument délicieuse, parce que c'est Bruno Podalides, c'est son univers de fantaisie joueuse et bricoleuse. Il s'attarde, et c'est toujours très adagio. Et voilà, on ne rit pas tant que ça, on sourit beaucoup, on est à l'aise, c'est un sourire d'aise, on est à l'aise chez eux. Dès le début, c'est un sac poubelle humain qui se déplace et nous déplace tout de suite astucieusement dans un petit monde de démunis et d'endettés. Ils n'ont pas d'argent, ils ont un petit côté opéra de 4 sous, des mini-brigands comme ça dans une caverne, etc. Et qui sont prêts, tous, et qui sont prêts à sauter sur le poil du seul riche. Alors, il y a un solo formidable de Daniel Auteuil, parce qu'il y a toute la troupe d'un côté, les familles familières de Bruno Podalides, mais Daniel Auteuil, pour la première fois, il fait un solo, il est le riche, le seul riche qu'ils peuvent atteindre pour le dévouiller, donc. Mais lui... il est complètement en dehors de la caricature ordinaire du riche. C'est un riche amoureux, sentimental, qui n'est pas dupe de leur manipulation et qui se laisse embarquer avec une douceur et un charme et une ironie exquise.
Vous n'avez que 30 secondes à Bernard.
Je serai un tout petit peu moins dithyrambique que mes camarades, même si en effet je trouve l'interprétation dominée par Daniel Auteuil et Sandrine Kiberlin. Je trouve que cette interprétation a beaucoup d'entrain. Le ton, oui, est très pimpant, attrayant. L'épisode tardif du chant à plusieurs voix est chaleureux et adroit. Puis il y a un vaste éventail musical, dont une version atypique de la pavane à l'enfant défunte, tout au début du film. Maintenant, ça pourrait être beaucoup plus drôle. La conclusion laisse à désirer. Elle tombe quand même rapidement, presque de manière prématurée. La réalisation se montre consciencieuse, mais n'est quand même pas très ambitieuse. Et puis, le rôle exercé par le bateau parallèle, pour montrer d'ailleurs l'un des enfants du réalisateur, est peut-être assez schématique. Et le titre...
Épilogue. Le bateau qui s'appelle Épilogue, parce qu'ils vont à la fin du monde.
Oui, alors certes, mais le titre issu d'un chef-d'œuvre de Gérard Houry, ici, est peut-être pas... ici, un hommage, est peut-être quand même pas très heureux. Je dirais, pour conclure, que plutôt que de nous mener en bateau... Il semble que Bruno Podalides nous présente toutes ses écluses. Et je fais un erratum avec toutes mes excuses. Ce n'était pas Christophe Barbier, mais bien sûr Christian Barbier dans L'Armée des Ombres.
Voilà, alors nous vous avons rappelé un petit truc en plus qu'il faut toujours aller voir. En attendant la nuit de Céline Rouzet, bof. Rendez-vous avec Paul Potts de Ritipan, oui.
Intéressant.
Oui. Intéressant. Et à montrer aux jeunes.
S'ils veulent célébrer la fête des Khmers.
Voilà. s'ils veulent surtout bien voter. Allez, merci Cédric, merci à vous trois. Merci Cédric Coba pour la réalisation et merci à François Dieudonné, Philippe Alpeuch, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain jeudi, imaginez-vous que je serai en direct de la librairie de la Procure, place Saint-Sulpice. Alors venez nous voir, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Je serai avec Jean-François Rode, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.